Et on a une portion des Écritures ce matin à lire dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 21. Et on va lire ça et ensuite on va partager cette bonne parole. Hein? Mais peut-être on peut se lever pour lire les Écritures ce matin, verset 17 dans 2 Corinthiens chapitre 5. Et la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est vraiment une transformation spirituelle, une transformation, un miracle qui se passe, que le Seigneur change même la façon qu'on pense. Et change vraiment, nous donne la possibilité de penser des bonnes pensées comme je partageais avec les enfants. Et on va lire, on continue et on voit ici dans les prochains versets qu'est-ce que la possibilité que le Seigneur nous donne. Au verset 18, ça dit, « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ » et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Seigneur, merci pour cette parole. C'est une parole de réconciliation. L'importance d'être réconcilié avec toi, l'importance d'être réconcilié avec autrui, réconcilié avec les gens qui sont autour de nous, avoir le ministère de la réconciliation. Et Seigneur, nous te remercions pour encore une fois, par ta grâce, une nouvelle année qui vient. Et dans cette année, Seigneur, aide-nous à exercer ce ministère dans chacune de nos vies, Seigneur, afin que tu sois glorifié. Je te prie au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Merci. Puis-vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, le titre du message ce matin, c'est « Bonne et heureuse, pas bonne et heureuse année », quoi qu'on vous souhaite bonne et heureuse année, mais « Bonne et heureuse réconciliation ». Il y a un membre, l'histoire d'un membre d'une église qui est encouragé par le pasteur durant un culte, comme ce matin, de se réconcilier avec un autre membre de l'église avec lequel il avait eu une dispute. Tu dois te réconcilier, dit le pasteur. Ce n'est pas bien d'avoir de la rancune ou de l'amertume contre un frère ou une sœur, et surtout à cette période de l'année. Va le voir maintenant et souhaite-lui une bonne et heureuse année. Alors le frère traverse le sanctuaire de l'église, retrouve celui avec qui il avait eu une dispute, lui tend la main et lui dit, je te souhaite une bonne année, mais juste une. Pas vraiment réconciliation, ça, hein? C'est pas vraiment pardonner quelqu'un. Mais vous savez, ça a été ces nouvelles, on en parle encore aujourd'hui, on a parlé beaucoup. Le 30 septembre passé, le 30 septembre 2021, marque la toute première journée nationale de la vérité et de la réconciliation au Canada. Cette journée est l'occasion de rendre hommage aux enfants disparus et aux survivants des pensionnats Première Nation, leur famille et leur communauté. La commémoration publique de l'histoire tragique et douloureuse des pensionnats et de leurs séquelles durables est un élément essentiel du processus de la réconciliation. Alors, une chose importante. Mais on peut dire un gros « mais » dans tout cela, c'est une bonne chose, mais ce qui nous rend capable vraiment de se réconcilier l'un avec l'autre n'est pas une journée nationale et officielle qui est faite par le Canada, par le gouvernement, mais c'est celui qui a initié en réalité la réconciliation, Dieu lui-même. Et c'est lui qui nous rend capable d'avoir cet esprit de réconciliation. Verset 18. Et tout cela vient de lui. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui, qui nous a réconciliés avec Dieu par son Fils, par Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère maintenant de la réconciliation. Alors, pour nous, c'est vraiment un ministère. Ce n'est pas juste un titre qu'on peut dire, une chose que le gouvernement peut faire, quoique c'est une bonne chose, qu'est-ce qu'ils font, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons ce ministère. Là, si quelqu'un dit, ben, moi, je n'ai vraiment pas de ministère dans l'Église, vous avez le ministère de la réconciliation, vous avez le ministère de la prière. Et c'est les deux choses la plus importante. Je veux partager avec vous deux personnes ici, Elizabeth Barrett, une poète, et Robert Browning, aussi un poète très connu à l'époque. Et puis je sais même quand j'étais au secondaire, on étudiait concernant Robert Browning et ses poèmes. C'est quelqu'un deux personnes très connues dans le monde anglophone. Et Elizabeth avait eu un père très violent et tyrannique. Et lorsque Elizabeth et Robert ont décidé de se marier après quelques temps de fréquentation, en 1846, ils se sont mariés et ils l'ont fait secrètement à cause du désaccord du père d'Élisabeth. Après la cérémonie, ils ont déménagé en Italie, si vous connaissez l'histoire, et ont demeuré là en Italie pour le restant de leur vie. Mais même si ses parents, Élisabeth, l'avaient renié, elle n'a jamais abandonné d'essayer de se réconcilier avec ses parents. On nous dit que presque chaque semaine, elle leur écrivait des lettres, mais pas une seule fois qu'ils ont répondu à ces lettres. Après dix ans, elle a reçu une grosse boîte par la poste. À l'intérieur, Elizabeth a trouvé toutes ses lettres, pas une n'avait été ouverte. Très triste. Mais aujourd'hui, ces lettres sont parmi les plus belles de la littérature classique qu'on étudie à l'école et qu'on lit. Si ses parents n'en avaient lu que quelques-unes, leur relation avec Elizabeth aurait pu être réconciliée. Juste de lire ces paroles. Si je peux vous donner une définition simple du mot réconciliation, c'est la restauration de la paix. La restauration de la paix avec Dieu, la paix de Dieu et la paix avec autrui. Alors, la paix, c'est un remède vraiment miraculeux dans l'esprit de l'homme. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas juste avoir une journée nationale de la réconciliation puis penser que ça va se faire vraiment dans le cœur de l'homme. Parce que c'est une chose spirituelle. C'est un remède qui est miraculeux. Elle désamorce, par exemple, le conflit et transforme le chaos en calme. La paix échange le stress pour la sérénité et la tension pour la tranquillité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut célébrer la paix de Dieu lorsque Christ a venu à sa première venue. Une des raisons de Noël, c'est justement la réconciliation. Et Isaïe, chapitre 9, verset 5, dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. » Prince de la paix. C'est intéressant. Parce qu'ici, voici qu'on introduit le Christ comme finalement il vient, il est né à Bethléem, il vient et il est appelé le prince de la paix. Cette expression est utilisée afin de le distinguer des milliers d'autres rois. Tous les rois, tous les princes qui ont venu avant lui durant l'histoire de l'homme et qui ont vraiment aimé la conquête, qui ont vraiment aimé la conquête et le sang. Conquérir des pays et conquérir des hommes, ça se passe encore aujourd'hui. Il y a encore des guerres, il y a encore des rois, des gens qui sont responsables pour des gouvernements. On ne les appelle plus des rois maintenant. En Angleterre, il y a encore une reine, mais la majorité, c'est ceux qui sont en tête de leur nation et ils veulent conquérir d'autres pays. On voit ça chez Poutine, qui veut vraiment conquérir ceux qui sont autour de lui. Mais alors, c'est pour ça qu'on voit ici la différence. Christ est un prince aussi. Il vient, mais il est appelé le prince de la paix. Au contraire, le Messie est venu pour promouvoir la paix, au contraire de tous les autres rois et la majorité, grande majorité des rois et des princes dans l'histoire de l'homme. Et alors, au désappointement des Juifs à cette époque-là, le Messie était doux et humble de cœur. C'était un homme de paix. Et les Juifs espéraient que le Messie viendrait pour détruire l'Empire romain, chose qui n'a pas arrivé, pas tout de suite, toujours, mais parce que Christ était un homme de paix. Et son règne peut mettre fin à la guerre, mais on a encore des guerres aujourd'hui, mais il peut mettre la fin à la guerre dans le cœur, dans le cœur d'un homme, dans le cœur d'une femme, dans le cœur de quelqu'un en tant qu'individu. Et bientôt, nous savons que la Bible nous enseigne qu'il mettra fin à toute guerre universelle. On a hâte à ce temps de grande paix sur cette terre. Mais entre-temps, êtes-vous heureux aujourd'hui qu'il peut vous donner la paix? À vous, personnellement, parce qu'il est le prince de la paix. Et alors, c'est quelque chose de miraculeux. Il restaurera l'harmonie au sein de toutes les nations un jour, bien sûr, mais entre-temps, il est le prince de la paix pour vous. Il est le prince de la paix pour moi, pour vous, pour nous, ensemble, et on peut le célébrer comme celui qui est le, wow, Prince of Peace, le prince de la paix. Nous pouvons l'obtenir aujourd'hui dans nos cœurs et dans nos vies. N'importe le chaos qui se passe autour de nous, frères et sœurs, on peut avoir le calme et la sérénité et la tranquillité et la paix dans notre cœur. L'armée céleste, à un moment donné, on apparut aux bergers et on louait Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix, paix sur la terre parmi ceux qui l'agrissent, ceux qui sont d'accord, ceux qui veulent, qui recherchent Dieu, qui recherchent la paix, qui recherchent le prince de la paix. Eux autres recevront la paix. » Est-ce possible? Dans un monde de chaos comme aujourd'hui, est-ce possible avec l'égoïsme, même je dirais dans nos propres cœurs? Est-ce possible avec le stress qui envahit nos vies si facilement aujourd'hui? Bien, la réponse, c'est bien sûr que c'est possible, mais il faut connaître le prince de la paix. Il faut le connaître d'une façon personnelle. Le prince de la paix. Une vraie histoire, à un moment donné, que je veux vous raconter d'un homme qui va à un séminaire de gestion de stress. C'est un homme qui était très stressé. En réalité, c'est un pasteur. Je lisais un livre sur son témoignage, et puis le pasteur disait qu'il était tellement stressé qu'il était, à un moment donné, dans un séminaire de gestion de stress. Et une suggestion était de décharger le speaker, le conférencier disait, la façon de décharger votre stress, c'est de le dire, de le partager à cœur ouvert avec un auditeur inconditionnel. Quelqu'un qui ne jugera pas. Un auditeur inconditionnel. Ça, c'est dur à trouver. Ça, c'est dur à trouver. Et alors, le conférencier disait, la meilleure façon de faire cela, c'est de parler à votre animal de compagnie. La meilleure façon de le faire, c'est de parler à quelqu'un que peut-être, pas nécessairement va comprendre, mais vous pouvez vous décharger sur lui ou sur elle. Tu verrais ça, Yolande? Oui, oui, ma femme fait la même chose, moi aussi. Et nous sommes bénis avec ce que Dieu nous a donné, mais nous parlons tous, je crois, nos chiens ou notre chat ou n'importe. Et cela est bien. Et je sais que c'est bon. C'est bon. On nous dit que c'est bon pour le stress d'avoir un chien, un chat qu'on peut flatter. Et ça nous fait du bien. C'est de valeur que les gens dans les foyers, la majorité n'ont pas le droit d'avoir des animaux de compagnie, quoi qu'il y en a qui amènent un chien ou deux qui fait le tour. Des chambres pour visiter ceux qui aiment les chiens. Je connais des gens qui font ça. Je connais même un chien, un labrador, qui fait ça à Perth, Andover, de temps en temps, qui va visiter les gens. Ça nous fait du bien. Mais faut pas y aller trop loin avec cette chose-là. Imaginez payer pour aller à un séminaire, parce que ce pasteur a payé pour aller à un séminaire qui vous dit d'avoir une conversation cœur à cœur avec votre hamster. Imaginez ça, il y a des limites. Hein? Il y a des limites à cette chose-là. Ça nous fait du bien, mais écoute, faut aller plus loin que ça. Et puis, je pense que la réponse est dans les Écritures. L'apôtre Paul avait une bien meilleure alternative. Quoique c'est important d'avoir des animaux, pour ceux qui peuvent l'avoir, ça nous fait du bien, mais il ne faut pas rester là, n'est-ce pas? Philippiens chapitre 4, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, la voilà. Pas par mon chien, mais par Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lorsqu'on aime nos animaux de compagnie, on aime nos chats, nous autres, on ne les aime pas d'une façon extrême. On dit, merci mon Dieu pour ce don. Ce cadeau que tu nous donnes, ça nous fait du bien. Et alors, on sait où est la source, n'est-ce pas? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La réalité, c'est qu'il n'y aura jamais la paix dans le monde avant d'avoir la paix entre les nations. Il n'y aura jamais la paix entre les nations avant d'avoir la paix dans nos communautés. Il n'y aura jamais la paix dans nos communautés avant d'avoir la paix dans nos familles. Il n'y aura jamais la paix dans nos familles avant d'avoir la paix dans nos vies individuelles. Et cela n'arrivera jamais avant que le prince de la paix règne dans nos cœurs. C'est là la clé. C'est là la réponse à nos foyers, à nos familles, à notre communauté, à notre Église, la réponse, la clé est de laisser dominer le prince de la paix. Il vient pour conquérir aussi, mais c'est un homme de paix et qui veut nous donner la paix dans nos vies, dans nos cœurs et dans nos foyers. Jésus-Christ est venu sur cette terre pour nous amener trois sortes de paix, comme j'ai dit, la paix avec Dieu, la paix de Dieu, la paix avec autrui, ces trois choses-là. Alors, j'aimerais vous partager ces trois choses-là un petit peu. La paix avec Dieu, premièrement, avec Dieu. Dieu nous a créés pour vivre pour lui, pour ses desseins, pas les nôtres. Pas les nôtres. Si nous vivons pour nos desseins, nous sommes en conflit avec Dieu. Hein? Si on veut faire à notre tête, comme on dit, si on veut faire, qu'est-ce qu'on veut faire? On est en conflit, on est en guerre avec Dieu. C'est un problème universel. Ésaïe, chapitre 53, dit, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, c'est-à-dire sur Christ, l'iniquité de nous tous. » Bonne chose. Mais on suivait sa propre voie. Même encore en tant que chrétien, des fois, on veut faire qu'est-ce qu'on veut. On doit revenir. L'Esprit de Dieu nous ramène. Et les Saintes Écritures nous ramènent à vouloir faire et accomplir ce que Dieu veut. Dans nos vies. Et alors, la majorité des gens sont vraiment en guerre avec Dieu. La Bible dit ceci, que les œuvres de la chair sont manifestes. Vous avez toute la liste qui est là, dans Galates chapitre 5, les œuvres de la chair sont manifestes, c'est pas beau, c'est pas plaisant à lire même, à voir toutes ces choses-là qui sont là, mais en contraste à ça, à être réconcilié avec Dieu a un effet positif dans notre esprit, dans notre vie. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit que Dieu nous donne dans Galates chapitre 5, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Le besoin d'être réconcilié est dans notre esprit, dans notre psyché, dans notre esprit, dans notre DNA, comme on dit en anglais. C'est inné, c'est là, Dieu l'a placé, Dieu l'a donné pour nous. Il nous a créés, il nous a fait comme ça. Et on a besoin de réconciliation. Je vais vous donner un bon exemple. Je pense que c'est un bon exemple. Il y a un désir inné en chacun de nous d'être en paix avec nos pères physiques, nos papas physiques. Même si notre père était désintéressé en nous, ou nous a abandonnés, ou même nous a abusés, il y a quand même quelque chose qui manque si cette relation est disconnectée. Et on sait ça, il y a beaucoup de gens qui souffrent. On souffre beaucoup à cause qu'il n'y a pas de connexion avec le Père. Nous avons ce désir en nous de vouloir être réconciliés. Nous voulons être aimés, nous voulons être approuvés par nos pères, par nos mères, par nos parents. C'est un besoin inné, c'est un besoin profond qui est là dans notre cœur. Mais ça témoigne de quelque chose d'encore beaucoup plus profond. Et il y a un autre besoin en nous qui est encore plus profond, c'est d'être réconcilié avec notre Père céleste. Être réconcilié avec Dieu. Et Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. dans Romains chapitre 5, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. La paix avec Dieu vient lorsque nous nous abandonnons à Dieu, sans condition. Sans condition. On ne peut pas faire de deal avec Dieu. On vient et on s'abandonne à lui. Savez-vous ce que l'ami de Job, un des amis de Job, a dit? Il a dit, « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. » En réalité, Job l'avait déjà. Il était attaché à Dieu déjà. Mais c'était un bon conseil quand même, « Attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix. » Et alors, la paix avec Dieu. Et le Seigneur nous dit que si on s'attache à lui, si vraiment on le suit de proche, le résultat, c'est la paix avec Dieu. Et il n'y aura pas de conflit entre nous et lui. La paix avec Dieu. Deuxième chose, c'est la paix de Dieu. La paix de Dieu. Avoir la paix avec Dieu nous donne maintenant la possibilité d'avoir la paix de Dieu dans nos cœurs. Et je vais vous dire, on a besoin de la paix de Dieu dans nos vies. Une vie de prière, par exemple, diminue une vie de panique. Une vie d'adoration diminue une vie d'agitation. Une vie de patience diminue une vie d'impatience. Alors, on voit le fruit de l'Esprit et nous avons une promesse pour la paix de Dieu. Et j'aimerais vous donner trois versions d'Ésaïe chapitre 26 qui nous dit ceci dans le The Message. Ça dit ceci, les gens qui ont leur pensée sur toi, les gens qui ont leur pensée sur toi, tu les gardes complètement entier, stable sur leur pied, stable sur leur pied, parce qu'ils persévèrent et n'abandonnent pas. La version Louis II, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en lui. À celui qui est ferme dans ses sentiments, ça veut dire que leurs sentiments, leurs pensées sont envers Dieu. Comme la première version nous a dit, les gens qui ont leur pensée sur toi. Alors, version Louis II, celui qui est ferme dans ses sentiments, hein, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Pourquoi que ça dit la paix deux fois? Pourquoi que lorsque Jésus parle dans les évangiles, puis il dit en vérité, je vous dis, ça veut dire, vous êtes bien mieux d'écouter. Ça veut dire, c'est important. C'est très important. Une autre version qui nous dit, « Tu m'assures une paix profonde. » C'est ça, ça veut dire une paix. C'est la paix, la paix. Ça veut dire une paix profonde parce que je me confie en toi. Alors, lorsque on se confie au Seigneur, il nous donne la paix de Dieu. Alors, on a la paix avec Dieu, parce qu'il n'y a pas de conflit, on s'abandonne à lui, et ensuite, on a la paix qui vient, le don de Dieu, c'est la paix de Dieu qui vient dans nos cœurs. Amen. Et la troisième, dernière, c'est la paix avec autrui, parce qu'on ne veut pas juste être béni comme ça, mais lorsqu'on est béni comme ça, Dieu nous fait que, d'une façon, Dieu, c'est un Dieu pratique. Alors, il nous aide dans nos vies de chaque jour, avec nos époux, nos épouses, nos enfants, les gens à l'ouvrage, les employés, les employeurs, et les gens de tout et partout. Et alors, il nous aide avec la paix avec autrui. Lorsqu'on a fait la paix avec Dieu et ensuite on a reçu la paix de Dieu, le Seigneur nous rend capable d'être en paix avec les autres. Il nous donne le désir et la force d'être réconciliés avec ceux dont nous avons eu des conflit. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous devenons maintenant des causeurs de paix, non des causeurs de troubles. Hein? Normalement, en tant qu'enfant de Dieu, c'est ça qu'on veut faire, le fruit de l'Esprit. Jésus a dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Qui procurent la paix en anglais, c'est peacemakers. Peacemakers, ceux qui sont des faiseurs de paix. Alors, le ministère de la réconciliation, le Seigneur nous le donne. Premièrement, le ministère de la réconciliation nous aide à résoudre nos différences avec respect et avec amour au lieu du sarcasme, au lieu de la colère. Parce que nous avons été transformés par l'Esprit de Dieu. Maintenant, on le fait et on travaille sur nos différences avec respect et amour pour autrui. La réconciliation nous aide à placer le focus sur la relation et non sur le problème. L'important de la différence, l'importance de la différence. De cette façon, le problème souvent diminue en grosseur et parfois le résout complètement. Alors, c'est la chose que le ministère de la réconciliation nous donne, ça nous aide à résoudre nos différences. Deuxièmement, le ministère de la réconciliation nous donne un esprit de pardon. Encore là, c'est miraculeux que le Seigneur peut placer dans nos cœurs un esprit de pardon au lieu de la revanche. Un esprit de pardon. Mais je veux dire que pardonner quelqu'un et faire confiance à quelqu'un, c'est très différent. C'est très différent. Le pardon, c'est instantané. Le pardon, c'est gratuit. Nous l'offrons aux autres comme Dieu nous l'offre. Dieu nous a pardonné. Automatiquement, il nous pardonne lorsqu'on vient à lui. Il nous pardonne. Et alors, on l'offre aux autres. C'est gratuit. Nous pardonnons afin de continuer notre vie et ne pas être poigné, comme on dit en bon français, ou être pris dans le passé. D'être pris dans l'amertume et la rancœur. On ne veut pas être là. Mais faire confiance est une autre paire de manches. Faire confiance en quelqu'un, c'est d'autres choses. Le pardon prend soin du passé. Le mal, peut-être, que quelqu'un nous a fait, c'est dans le passé. Le pardon prend soin du passé, mais faire confiance en quelqu'un est dans le futur. Ça doit être gagné avec le temps. Faire confiance peut être perdu dans une seconde. Et ça prend longtemps. Ça prend longtemps pour la rebâtir. Et alors, je vais vous donner un exemple. Si nous avons été dans une relation abusive, par exemple, Dieu veut que nous pardonnions la personne afin de ne pas avoir de l'amertume, afin qu'on ne soit pas empoisonné dans notre propre esprit, dans notre vie. Mais Dieu ne veut pas que nous continuions à être abusés. Hein? On n'accepte pas d'être abusé. Mais quoi qu'on pardonne, la personne, ça ne veut pas dire qu'on redevient meilleur ami avec cette personne-là. Ça ne veut pas dire que maintenant, toutes les barrières sont enlevées. C'est tout simplement qu'on a pardonné la personne afin qu'on puisse vivre, qu'on puisse continuer, qu'on puisse grandir dans le Seigneur avec aucune amertume dans le cœur. C'est miraculeux que le Seigneur peut faire ça pour vous et moi. Et c'est une grande bénédiction. Et alors, voilà le ministère de la réconciliation que le Seigneur nous donne à chacun de nous. On peut se pardonner les uns les autres. On peut pardonner la plus pire, la personne qui nous a fait du mal dans notre vie, afin qu'on puisse être libéré. Je sais qu'il y en a même ici, présent, qui a fait cela. Et vous avez été libéré parce que vous avez pardonné quelqu'un qui vous a fait du mal. Voilà le ministère de la réconciliation que le Seigneur nous donne. L'amertume est autodestructrice parce que ça nous fait mal dans notre cœur, puis ça prolonge la douleur. Et alors, nous devons vraiment le laisser aller au nom du Seigneur. Alors, ce temps d'année, lorsqu'on parle de Noël, c'est la saison idéale, je crois, pour offrir le don de grâce aux autres. C'est la saison idéale pour se pardonner les uns les autres. Être rempli de l'amour de Jésus-Christ va nous aider à exercer ce ministère de la réconciliation. Et alors, en ce temps, qu'on peut appeler ce temps des fêtes, ouvrons le meilleur cadeau que Dieu nous offre, Jésus-Christ lui-même. En lui, en Jésus, est enveloppé tous les bénéfices et toutes les bénédictions de la vie pour nous. C'est qu'est-ce que je vous souhaite pour la nouvelle année, une bonne et heureuse année de réconciliation. Lorsqu'on pense à une nouvelle année, Jésus a un message pour nous. Il dit, « Je veux remplacer tes frustrations avec ma paix. Je veux remplacer ta culpabilité avec mon pardon. Je veux remplacer ton inquiétude avec la confiance en moi. Je veux remplacer ta dépression avec un espoir. Je veux remplacer ton vide avec un sens à la vie et un but pour la vie. Je veux remplacer ta confusion avec une clarté d'esprit. » Voilà son cadeau pour vous. Voilà son don pour vous. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et alors, bonne et heureuse réconciliation. Que sa paix soit avec vous aujourd'hui et avec votre esprit. Seigneur, merci pour ta paix. Merci pour la paix avec Dieu. Merci pour la paix de Dieu. Merci pour la paix avec autrui. Et Seigneur, si on n'a pas fait la paix avec quelqu'un, aide-nous à le faire, afin, Seigneur, qu'on puisse continuer à être épanoui dans notre vie, afin qu'on puisse faire du bien à quelqu'un qui nous a fait mal. Seigneur, bénis ton peuple, bénis ton Église, bénis chaque famille ici, représenté, Seigneur, dans cette Église. Seigneur, que tu puisses bénir les églises, les familles, papa, maman, les enfants, ensemble, qu'ils soient liés plus que jamais dans ce temps d'incertitude, dans ce temps d'agitation, que tu puisses mettre ta paix sur chaque personne, sur chaque foyer, sur chaque famille. Je te prie au nom de Jésus. Et pour ta gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu.